Radio Panique.
Pandémique.
Rassure l'auditeur.
Après les guerres nucléaires, les guerres des ressources et les zombies, on va s'intéresser ici aux conséquences d'une gigantesque épidémie mortelle et ultra contagieuse sur l'humanité.
Radio Pandémique tous ensemble.
On va s'intéresser aux potentielles causes de cette épidémie, aux réponses qui peuvent être mises en place dans le monde, et enfin on dessinera un scénario impliquant un super virus qui va déclencher une super épidémie, et on va voir ses conséquences sur l'humanité.
Comment les gouvernements pourraient réagir,
comment les personnes comme vous et moi seraient affectées, et comment des régions entières du globe pourraient sombrer dans le chaos, etc.
C'est Radio Pandémique, avec un K.
Ah oui, Radio Pandémique,
ouais.
J'aime bien.
Bonsoir, bonsoir à l'émission de la radio de la Voix de la Rue. Bonsoir Émilie. J'espère que toute la famille de la radio et toute la famille de Douche Flux passent un moment, je sais c'est un moment difficile, mais à côté de ça, donc on est tous unis, tous solidaires pour essayer donc faire le maximum des efforts pour essayer donc diminuer cette situation très très difficile, que ça passe à la Belgique ou y partant dans le monde. Tout d'abord, merci pour l'invitation pour puisse donner mon témoignage et mon point de vue sur la situation. Ici, dans mon quartier à XL, j'ai essayé quand même rencontrer pas mal de SDF, David, Jonathan, et quelques amis, on a parlé un peu tous ensemble sur ce qui se passe dans la vie quotidienne et aussi au niveau politique, comment réagir avec ce moment difficile avec le virus Corona. Et ça a été une chouette discussion et on a essayé d'échanger quand même les points de vue. Ça a été très très intéressant aussi passer un moment avec des gens précaires, des gens dans situation précaire. Moi aussi je suis quelqu'un dans situation précaire et je sens ça intérieurement parce que c'est aussi ma situation. Donner la parole aussi, écouter toujours les personnes précaires, réfugiés sans papier, parce que eux aussi ils sont des aidés et sont aussi des développements durables dans toutes les discussions et tous les domaines. Ça concerne la vie et aussi le monde. Et voilà, donc c'est mon point de vue et aussi la radio aussi annulée pour lundi, mais quand même ça aide si tout le monde essaie de faire une interview avec des points de vue totalement différents. Ça a été très très chouette si on essaie de faire ça au niveau du travail tous ensemble pour de la mission de la radio de la Voix de la Rue, parce que j'adore cette mission, j'adore ce radio-là pour moi, la radio Panique. Donc c'est un radio libre, ouvert pour tous les citoyens sans différence, pour tous les êtres humains sans différence, une moyen pour passer le message malgré tous les cas. Et dans mon côté aussi, donc militant indépendant, que les alternatives comme ça, des radios comme ça, avec des émissions totalement différentes, c'est très 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 important. Et toujours dans ma vie, j'adore deux mots, apprendre et comprendre sans juger, sans préjuger personne. Et j'adore la liberté d'expression, j'adore exprimer comme je suis. Et c'est ça l'important, donc, toujours dans ma vie professionnelle. Merci, bonne soirée, bisous, Émilie.
Marche noire. Y'a plus d'espoir pour trouver ton amour. Tout est gris. Marche noire.
Mais c'est super bien. Notre lieu, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Arthur de Radio Panique.
Alors, moi, c'est François, je travaille du coup à l'autre lieu. L'autre lieu, c'est une ASBL qui œuvre dans le champ de la santé mentale et qui se pose en tant qu'alternative à la psychiatrie. Alternative pourquoi ? Ben, la psychiatrie, c'est le domaine des psychiatres, des médecins, des médicaments, ça se passe à l'hôpital. Nous, on travaille en dehors de l'hôpital, il n'y a pas de psychiatre ou de médecin, ni aucun personnel médical. On ne prescrit pas de médicaments, on travaille plutôt sur les déterminants de la santé, donc tout ce qui fait qu'une personne peut aller bien ou moins bien, comme par exemple le logement, les liens, le travail, la formation, ce genre de choses. Et du coup, ben, moi j'accompagne les personnes en dehors de l'hôpital, mais aussi à l'hôpital, dans ce qu'on appelle le milieu de vie. Donc c'est un peu un accompagnement au quotidien sur toutes les petites difficultés que les personnes peuvent rencontrer.
Je m'appelle Maria, je travaille à l'autre lieu et j'assure l'accueil. Je suis actuellement étudiante en accompagnement psychoéducatif, donc éducateur spécialisé. Pendant cette drôle de période que nous traversons, en tout cas actuellement j'assure une permanence téléphonique. Comme ça les gens peuvent nous solliciter, ils peuvent toujours nous contacter, on est une oreille attentive et entourante. Et voilà, j'assure ce petit poste-là.
Qu'est-ce qui a changé dans votre travail actuellement, concrètement ?
Alors, déjà, en temps normal, on est disponible, on a un lieu d'accueil qui est disponible et ouvert au public, donc on peut rencontrer les personnes, leur proposer un café, discuter, assurer des démarches administratives. Là, déjà, vu qu'on est à domicile et qu'on ne va pas recevoir les personnes chez nous, le travail se fait par téléphone principalement. Et du coup ça change tout quoi, c'est vraiment juste écouter, discuter, on peut pas faire grand chose, d'autant que les administrations et un peu tous les services de première ligne sont fermés ou font comme nous un service minimum téléphonique, donc il y a pas moyen de faire grand chose à part écouter, discuter, essayer d'apaiser les choses et de rassurer les gens, mais c'est vraiment juste de l'écoute et de l'accompagnement au téléphone, sauf en cas d'urgence, on peut toujours accompagner une personne à l'hôpital. Là aussi, c'est compliqué parce que les hôpitaux, avec cette histoire de pandémie, de Covid, essayent d'accepter le moins de personnes possibles. Donc, ils font vraiment le tri entre les vraies personnes qui sont en crise, les vraies urgences. Et donc, on est un peu malmené parce qu'on attend pendant des heures aux urgences. Toutes les personnes qui ont des symptômes, des toux et tout passent avant nous. Donc, être avec une personne en crise aux urgences et attendre 5 heures pour se faire accueillir par un médecin, un psychiatre, c'est déjà très compliqué de rester pendant des heures avec une personne en crise dans une salle d'attente. Et une fois qu'on arrive devant le psychiatre, le psychiatre a tendance à essayer de renvoyer la personne chez elle en nous expliquant qu'il faut essayer de mettre en place un accompagnement à domicile, comme une infirmière qui viendrait vérifier ou un service de première ligne. Sauf que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop conscience que tout est au ralenti à l'extérieur et que donc c'est encore plus compliqué que d'habitude.
Et Maria, de ton côté ?
Voilà, on va dire que les horaires changent. Maintenant, il n'y a plus d'horaires. On est tout le temps là, on est tout le temps disponible et tout le temps à essayer de créer du lien. Aussi, une alternative. Allez. L'autre lieu a réfléchi à des alternatives aussi, parce qu'il y a le fait de proposer des permanences et une écoute, mais il y a aussi tout ce qui est créatif ou plus occupationnel, car il faut savoir que l'autre lieu, en temps normal, propose un grand volet d'activités, et maintenant tout ça est en stop, et ces activités faisaient aussi grand bien à beaucoup de gens. Et donc maintenant, il y a aussi tout un travail de comment continuer à faire ensemble malgré ce confinement, comment rester en lien et non seulement par le téléphone et non seulement par Internet. Il y a des solutions qui sont aussi en train de se mettre en place. On est en train de réfléchir en équipe comment être auprès des gens sont en dehors de ces permanences téléphoniques et en dehors d'Internet. Et il y a toute une série de choses qui sont en train de se mettre en place maintenant.
on va proposer aux personnes de continuer leur groupe. Donc, en temps normal, on fait des ateliers d'écriture, des groupes de recherche, des groupes de réflexion autour de certains sujets comme les médicaments ou actuellement une nouvelle campagne qui va être lancée sur l'habitat, le logement, comment s'abriter. Et on va proposer aux personnes de travailler à domicile. Et donc, on va essayer de s'organiser et de coordonner des petites missions de réflexion personnelle, chacun de son côté, et puis récolter les données et les centraliser. Comme ça, le travail de réflexion continue malgré le confinement.
Les personnes avec qui vous êtes en contact actuellement, donc à travers les permanences téléphoniques, qu'est-ce qu'elles vous disent sur leur situation actuelle, leur vécu, leur ressenti ?
À part l'ennui. L'ennui général, et c'est l'incertitude aussi, la peur pour les autres, pour les familiers qui se retrouvent, pour les personnes de la famille qui se retrouvent loin et qui sont donc souvent plus âgées, et le ne pas savoir, la peur aussi. Il y a un certain impact de certaines fake news pour certaines personnes aussi, où ça attise la peur, mais je dirais ennui, incertitude et solitude aussi. La solitude vient frapper assez fort maintenant dans cette période de confinement. Aussi les rapports, parce qu'on est forcé à un moment de sortir faire une course, d'aller dehors, et c'est les rapports aux autres aussi maintenant qui ont fort changé. Il y a une tension à l'extérieur, c'est angoissant, c'est même la police qui est présente dans les rues et qui se saisit de leur magnétophone pour vous dire de dégager, de pas s'arrêter. Et l'incompréhension aussi de certaines personnes qui n'arrivent pas très bien à comprendre ce qui se passe, pourquoi la police les arrête, parce qu'ils ont fait une pause sur un banc parce qu'ils étaient fatigués, et qui comprennent pas bien. Et je pense aussi que finalement, les réactions, elles sont très propres à chacun, mais je pense que en règle générale, et ça c'est propre à tous, il y a un certain ennui et incertitude générale qui est propre à tous. Et pour les personnes qui d'habitude étaient frappées de solitude, ben effectivement maintenant ça se ressent encore plus.
Moi, ce que je remarque par rapport aux personnes que j'ai au téléphone, c'est que en temps normal les personnes sont fort focalisées sur leur situation. À l'autre lieu, on essaye de faire en sorte que les personnes aillent vers un collectif. Et parfois, on a l'impression que ça ne fonctionne pas toujours. Or, maintenant, en cette période, on remarque que le collectif manque fort aux personnes et que les personnes qui se retrouvent isolées, en fait, bénéficiaient vraiment de ce collectif. Et on est fort sollicité par téléphone pour savoir quand est-ce que l'autre lieu va réouvrir. Les personnes prennent des nouvelles des autres membres de l'autre lieu, ce genre de choses.
Il y a un réseau d'aide qui est mis en place, il y a des réseaux de soutien. Les gens se soutiennent entre eux, il y a des initiatives, des choses qu'ils font, et ça, c'est vraiment très beau de voir l'ouverture vers l'autre et l'aide et le soutien et l'attention des uns vers les autres, vers nous aussi. On est tous confinés, c'est une situation... Voilà, on est tous touchés par ça, c'est une problématique. Voilà, c'est une attention vraiment, et c'est beau.
Par rapport au fait que vous soyez un lieu alternatif en santé mentale, quel regard vous posez sur la façon dont actuellement le milieu psychiatrique des professionnels de la santé gère cette crise, ces mesures de confinement, les répercussions sur les individus, sur notre société ?
On a traversé une situation ces derniers jours où on a dû accompagner une personne à l'hôpital et ce qu'on remarque, c'est que le personnel médical fait vraiment son maximum. Les nouvelles mesures face au confinement pour essayer que les choses ne se propagent pas plus, ils sont aussi impactés et leur travail est aussi beaucoup plus compliqué, celui des ambulanciers, celui des urgentistes. Et donc, on remarque que le personnel médical fait vraiment tout son possible pour être le plus humain possible et le plus efficace possible. Mais c'est compliqué. Et les choses, déjà en temps normal, c'est pas toujours facile, mais là, c'est encore beaucoup plus difficile, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je suis épaté de voir dans quelles conditions ils arrivent quand même à faire leur travail du mieux qu'ils peuvent et voilà.
Salut, je sais pas qui tu es, je suis confiné en Corse du sud près d'Olmeto avec trois amis, j'ai construit un terrain de badminton avec de la farine pour faire les lignes. Bonne journée à toi et bon confinement. Guillaume.
Covid-19, mesures minimales. Cette liste est évolutive et mise à jour. Organisation de structures d'entraide, courses, veilles, soins pour les personnes fragiles et isolées. Refonte totale du système de santé. Augmentation des postes, lits, hôpitaux, gratuité universelle. Suppression des jours de carence pour toutes et tous. Revenu garanti à minima pour toutes et tous. Fermeture des lieux de production non essentiels à la résolution de la crise sanitaire. Droit de retrait pour toutes et tous, hors secteur indispensable avec indemnisation totale. Aide financière exceptionnelle aux travailleurs, travailleuses, indépendantes, indépendants et précaires. Prolongation des droits au chômage et pour les intermittentes et intermittents, au prorata des jours de confinement. Interdiction des licenciements et des expulsions de domicile. Suspension des loyers, des factures d'énergie et des crédits pour les personnes physiques et morales. Réquisition des fabricantes et fabricants de matériel médical et des cliniques privées. Réquisition des logements vacants pour les personnes sans abri, victimes de violences masculines, exilées et exilées. Libération des personnes en détention provisoire, des prisonnières et des prisonniers, des réfugiés et des réfugiés. Annulation des obligations de quitter le territoire. Abrogation définitive des lois sécuritaires et antisociales des 40 dernières années. Nota bene. Les conséquences de cette crise sanitaire étendues aux politiques libérales des 40 dernières années, voire plus. Soyons déterminés et déterminées à nous battre de toutes nos forces pour que rien ne retourne à la normale une fois qu'on en aura fini avec ce virus.
You Bonjour Émilie, j'espère que tu vas bien. Ici au Maroc, c'est comme la Belgique, c'est-à-dire que les cafés, les restaurants, y compris les réunions de X nombre de personnes, je ne sais plus combien, est interdite. Maintenant, ils ont passé à une phase supérieure, c'est-à-dire qu'à partir de 18 heures, les gens ne peuvent plus sortir sans aucune raison. Bon, ici au Maroc, il y a beaucoup moins de cas du coronavirus qu'en Europe. Alors, non, ils prennent toutes les mesures pour essayer de freiner ce virus. Voilà. Donc, c'est vrai que pas mal d'Européens sont bloqués ici au Maroc parce qu'ils ont annoncé un jour avant. Enfin, je crois qu'ils avaient prévenu le vendredi pour dire que le samedi, il n'y avait plus d'avion. Donc, beaucoup trop d'Européens ont été pris de court et sont bloqués ici au Maroc. Donc, on ne sait pas quand on pourra, parce que c'est également mon cas, quand on pourra revenir en Belgique. Voilà, effectivement, j'ai aussi une pensée pour les SDF en Belgique, mais au Maroc aussi, parce qu'il y a une association qui s'appelle l'association Joud, qui s'occupe des SDF dans plusieurs villes du Maroc, telles que Marrakech, Casablanca ou Rabat. Et c'est vrai que tous les services sociaux, un peu comme les associations en Belgique, malheureusement ne peuvent plus vraiment s'occuper comme ils aimeraient le faire des SDF. Ben, je vous embrasse tous, gros bisous à toute l'équipe et à tous les auditeurs. Faites très attention à vous.
Ok, et ben alors tiens, j'ai tout désinfecté le téléphone.
Non, garde-le.
Je regarde comme ça. Ouais, en barque il entend là en fait. Ouais. Et ben, je sais pas ce que tu veux nous raconter du coup, comment ça se passe pour toi.
Pose des questions.
Ouais. Et ben alors, par exemple, qu'est-ce que tu trouverais le plus compliqué dans cette période?
Le manque de sociabilité. Qu'on ait besoin de solidarité. Et qu'on sache toujours qu'on peut se plaindre qu'à soi-même, mais pour s'en sortir tout seul. Mais dans ce cas-là, avec le Covid, on a besoin à peu près de tout en tant que sans domicile fixe. Enfin, pour les plus démunis. Pardonnez-moi ce que je viens de dire. Mais sans le monde de consommation dans lequel on vit en temps normal, aujourd'hui, vu que tout est confiné, bah les choses deviennent relativement pour tout le monde imprévisibles. Du coup, bah on s'adapte au fur et à mesure du temps et on essaye de trouver des solutions, mais faut garder espoir, et faut manger et faut boire.
Et parce que par exemple, du coup, pour manger, pour boire, pour te laver, tu fais comment?
Bah moi, je vais là, dans la Saône ou le Rhône, et parfois il y a les bains de douche à Gerland, je crois, Villeurbanne. Et après, il n'y a rien d'autre. Après, c'est vrai que c'est une vraie galère.
C'est plus compliqué que d'habitude.
Ouais, c'est le cas de le dire.
Pourquoi c'est plus compliqué?
Parce que tout est fermé. Et que tout le monde doit se mettre en confinement, quoi. C'est chiant. Mais il faut faire avec. Comme toujours.
Et parce que toi, d'habitude, par exemple, pour avoir de l'argent, tu fais de la manche ou pas du tout?
Ça arrive, ouais.
Ouais. Mais là, du coup, ça marche encore ou ça marche plus?
Ça marche plus du tout. Tu croises une vingtaine de personnes dans la journée parce que t'as pas trop envie de sortir de ton coin de piéton, quoi. Enfin, ton coin de trottoir. Mais c'est vrai que c'est bien plus chiant comme ça. Mais faut pas dépendre de la chum, quoi.
Ouais, et est-ce que par exemple, il y a des choses que, à cause du Covid, t'arrives plus à te procurer?
La nourriture, la flotte.
Est-ce que par exemple des vêtements, tu te retrouves en galère?
Ça, on peut le laver avec quelques fontaines, je crois, qui marchent encore, mais encore elles sont toutes arrêtées ici à Lyon. Mais un savon de Marseille, c'est simple, quoi, comme dans l'ancien temps, quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça. C'est plutôt une galère pour même les gens qui habitent chez eux, vu qu'il n'y a plus de laverie automatique. Ouais, en quelque sorte, on fait comme toujours, on reste crade, quoi.
Et Est-ce que tu as été emmerdé par la police avec les attestations?
Moi, pas une seule fois, mais j'ai entendu parler qu'on n'avait pas le droit de poser une amende à un sans domicile fixe. Il y a une haute personne dans... Je sais pas, aide-moi.
La préfecture, normalement?
Ouais, la préfecture a dit qu'on ne doit pas mettre d'amende à des sans domicile fixe.
Ok, et toi, ça t'est pas arrivé?
Non, pas encore.
Et t'as pas croisé de police en même temps?
Si, deux fois.
Et alors?
Mais rien de plus.
Ok. T'as dit je suis dans son domicile et du coup ils t'ont
fait ouais. Ça. Ils ont fait leur chemin.
Ok. Et j'avais un autre truc. Les flics. Et oui, par exemple, si jamais on a des addictions et tout, c'est peut-être plus compliqué, j'imagine.
Ah bah alors là, vaut mieux dire qu'il faut affronter ses démons. Hein. Y'a rien d'autre à faire. Hein. Soit on en a, soit on en a pas. Hein.
Et si on en a et qu'on peut plus s'en procurer, c'est galère, quoi.
Bah, tu pourras te plaindre qu'à toi-même.
Ouais. Allez, je te l'accorde. Ok. Et mettons que là, tout de suite, t'es quelqu'un qui est un haut placé qui puisse prendre des décisions. Qu'est-ce que tu lui demanderais de prendre comme décision pour le sans-abri, par exemple? T'as le préfet devant toi, là, tu lui demandes quoi?
Bah, je lui dirais, monsieur le préfet, j'ai besoin d'un logement parce que ça fait si longtemps que j'attends, comme il y en a 160 000 en France qui dorment dehors. Du coup, faudrait trouver une solution à votre image. C'est tout, moi, j'ai pas la tête pour ça. Je sais juste qu'il faut s'en sortir, on peut que s'en sortir tout seul dans la rue. Quand on est dehors, tu veux un logement, tu le trouveras si tu bouges ton cul. Mais t'as le préf devant toi, bah... Améliorer les choses, mais t'as beau parlementer, ça change rien.
Ça...
Mais on croit à l'espoir. Hein. Tant qu'il y a la vie, il y en a. Et ça, c'est le cas de le dire.
Ta première demande, ce sera un logement.
Ouais.
Et ça te fait peur, toi, le coronavirus, ou pas?
Ouais.
Ouais?
Un peu.
T'as peur de l'attraper, toi?
Non. Je m'en fous royalement.
Okay. T'as peur de leur filer?
Ouais, plutôt ça. Bien dit.
Et tu dirais que ce qui te fait le plus peur, c'est les conséquences du confinement ou les conséquences du coronavirus, toi?
J'en sais rien, je me suis pas assez informé pour ça. Mais en soi, ça fait triper tout le monde, hein, le Covid. Ouais. Bah, rien de plus, quoi.
Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose?
Bah, prenez soin de vous, les gens, et les compagnons de la rue. Essayez au mieux de vous protéger. Si vous faites passer le message.
I come from California, dirty south from Belgium.
Voilà, je m'appelle Stéphanie, j'habite à Liège, je suis juriste. Je suis conseillère au CPAS de Liège, c'est un mandat politique, je fais partie d'un groupe politique qui s'appelle Vert Ardent. C'est un groupe politique, on va dire, qui est vert et à gauche, et pour plus de participation citoyenne. Et par ailleurs, j'ai aussi un mandat à la commission de surveillance de Lantin. C'est une commission qui est établie par une loi et qui va surveiller les conditions de détention au sein des établissements pénitentiaires.
Donc, en fait, il y a eu un confinement depuis, on dirait, une dizaine de jours. Hein, et qu'est-ce que tu as pu observer de la gestion du confinement vis-à-vis des populations les plus précarisées, quoi?
Il faut dire que cette situation de confinement, bon, bah, c'est une situation qui est évidemment inédite pour tout le monde. Et dans une ville comme Liège, par rapport à la gestion de la précarité, c'est quelque chose d'assez complexe. C'est un très très gros CPAS à Liège. D'abord, on a un très gros taux de personnes qui dépendent du revenu d'intégration sociale. C'est le plus gros au niveau de la Wallonie. Et on a aussi énormément de sans-abri à Liège qui dorment habituellement dans la rue, dans des campements, dans des squats. You know what I mean.
Mais aussi quand même dans des organismes qui les accueillent la nuit, non?
Oui, il y a des abris de nuit habituellement. Il y a un abri de nuit de la ville, ça s'appelle l'abri sur la fontaine, et il y a aussi un abri de nuit, l'abri Thermos, qui accueille aussi toutes les nuits. Les gens arrivent le soir et repartent le matin. Les abris de nuit ont dû fermer au début de la crise, donc à partir du moment où le gouvernement a décrété le confinement chacun chez soi, parce qu'il ne répondait pas aux règles de distanciation sociale. Et du coup, c'est toute une série de gens qui se sont retrouvés du jour au lendemain à ne plus avoir d'endroit où dormir. Alors au niveau de la ville de Liège, comment est-ce que ça s'est réglé? Depuis la semaine passée, je pense que c'était jeudi, la ville, avec le CPS et le relais social du Pays de Liège et 5 autres communes avoisinantes, ils ont décidé de mettre sur pied un camping dans un parc de la ville, le parc Astrid. Ils ont mis à disposition des tentes avec des sacs de couchage ou des couvertures pour les sans-abri et des toilettes publiques. Alors c'est une situation qui est assez originelle, mais que nous on trouve pas tout à fait correcte. C'est original parce que dans les autres villes, les autres grandes villes de Wallonie et Bruxelles, on a plutôt préféré le logement en dur. Il y a des villes où c'est des réquisitions de halls de sport, ou alors à Bruxelles, il y a eu des réquisitions d'hôtels, je pense, pour permettre que chaque sans-abri puisse avoir une chambre individuelle.
Moi, j'avais même pas compris les choses comme ça. Je pensais que le parc Astrid, ils ont distribué des tentes, tu pouvais aller prendre une douche, mais je savais pas qu'ils avaient organisé un camping sur le parc Astrid.
Il n'y a pas de douche, a priori, parc Astrid, mais il y a des toilettes, il y a une permanence médicale, et il y a la distribution de repas.
Ouais. Et donc, au niveau des colis, tout a fermé aussi.
Voilà, habituellement, les colis alimentaires, ils sont distribués à Liège plutôt par de l'associatif et par du privé. Mais c'est quelque chose qui est organisé, coordonné au niveau de la ville. Donc, tout ça, ça a été suspendu au début du confinement parce que voilà, les gens n'avaient pas les bonnes protections, etc. Ça a été repris par les autorités de la ville et aujourd'hui, c'est de nouveau organisé. Les gens doivent commander par téléphone un colis et il y a 3 points de retrait au niveau de la ville de Liège pour aller les chercher. Donc au niveau des colis alimentaires, c'est bon. Et en plus, au parc Astrid, il y a la distribution de repas quotidiennement. Il y a aussi une nouvelle initiative qui s'est mise sur pied hier avec le café de la gare. Donc à la gare de Guillemin, il y a un grand café-restaurant qui a décidé, avec l'apport de fonds privés, de fournir des repas quotidiennement. Chaque jour, ils fournissent un repas préparé à destination de collectifs et d'associations qui viennent chercher ces repas pour les redistribuer à leur public. Notamment, j'ai vu qu'on bénéficie d'une structure d'accueil de jour dans le centre-ville qui s'appelle l'accueil botanique. Et du coup, ils peuvent redistribuer ces repas quotidiennement. Mais ça peut être pour d'autres. En fait, ils ont l'ambition d'arriver à 200 repas quotidiens.
Donc en fait, il y a eu quand même flottement dans l'organisation.
Oui, il y a eu 2-3 jours durant lesquels on ne savait pas très bien ce qui se passait. Il y avait des retours de gens de terrain qui disaient « Attention, les sans-abri, zones dans le centre-ville, ils commencent à avoir faim parce qu'il n'y avait plus de distribution alimentaire, parce qu'il n'y avait plus personne qui se baladait en ville non plus à qui ils pouvaient faire l'aumône. » Il n'y avait plus de distribution de repas par les différentes ASBL. Normalement, il y a l'ASBL Thermos, notamment, qui distribue des repas quotidiennement. Il y a une autre initiative qui s'appelle les Lucioles, qui distribue des repas en jour, etc. Tout ça a cessé durant quelques jours, pas très longtemps, je pense, 4-5 jours peut-être maximum. Il n'y a pas eu grand-chose, non.
Sinon, au niveau du logement, donc ces abris de nuit ont fermé, qu'est-ce que tu trouves qu'il faudrait faire, qui manque dans les dispositifs actuels?
Nous, ce qu'on a fait depuis le début, c'est qu'on s'est mis dans une optique de critique constructive avec la ville, c'est-à-dire regarder ce qui se passe et d'essayer de proposer aux autorités de la ville d'avoir un regard critique, de dire « bah oui, c'est bien ce que vous faites là, mais peut-être qu'on pourrait faire autre chose » et de proposer des alternatives. Donc nous, ce qu'on a proposé au début, c'était la mise à disposition de halls de sport en se disant que s'il ne peut pas y avoir de distanciation sociale dans les abris de nuit, les halls de sport, on pourrait mettre 15-20 personnes par hall de sport et ils pourraient être suffisamment éloignés les uns des autres. On est plus aujourd'hui sur la mise à disposition de chambres individuelles qui pourraient se trouver dans différentes structures. On a les hôtels que comme il y a évidemment plus de tourisme aujourd'hui, il y a énormément d'hôtels qui sont vides. Il y a aussi l'auberge Simenon, qui est l'auberge de jeunesse. Et il y a aussi une petite particularité légère, c'est qu'actuellement, on a 3 hôpitaux qui sont vides, parce qu'il y a eu un des réseaux hospitaliers, le réseau chrétien, qui a déménagé la semaine passée dans une méga structure qui se trouve sur les hauteurs de la ville. Et donc, on a 3 grands hôpitaux à Liège qui sont vides. Du coup, les structures avec des chambres individuelles, il y en a. Donc, nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est que les sans-abri soient hébergés dans un bâtiment avec des chambres individuelles où il y a des sanitaires corrects, où il peut y avoir des distributions de repas, où il y a des équipes d'encadrement psycho, médico, social, qu'ils ne soient pas juste livrés à eux-mêmes, et qu'en plus, il y ait un centre médicalisé pour les sans-abri qui sont malades, mais dont l'état ne nécessite pas d'être hospitalisé. Mais voilà, qu'il faut davantage isoler parce qu'ils seraient porteurs du virus et potentiellement contaminants.
Et donc vous avez interpellé les autorités communales alors ?
On a interpellé les autorités communales, la ville, le CPS, mais aussi la province.
Et leur réaction ?
Ah, ils consultent, ils réfléchissent.
Il n'y a pas une forme d'urgence quand même ?
Si, je pense qu'il y a une forme d'urgence, mais en même temps, je pense que la situation est aussi très compliquée à gérer à leur niveau. Je pense qu'ils sont un petit peu dépassés par l'ampleur du problème. Au niveau de la ville, ils ont l'habitude de travailler et de gérer la question du sans-abrisme au quotidien, en se disant, ben voilà, il y a des sans-abri, ils vivent un petit peu partout en ville et on essaye de faire en sorte qu'ils survivent. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on en est à comment faire pour que ces gens, en effet, survivent, mais soient aussi en confinement pour leur bien-être à eux et aussi pour le bien-être de la population en général. Oui, ce que je trouve peut-être dommage, c'est que pour l'instant, la ville de Liège, ils ont quand même mis sur pied toute une série de services. On parlait des colis alimentaires. Il y a aussi le CPAS qui met à disposition un service pour faire les courses pour les personnes âgées et pour les personnes qui ont des difficultés de déplacement, etc. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, toutes ces informations-là, elles circulent par Internet. Or, je pense que ce serait vraiment important qu'il y ait un affichage massif qui se fasse en ville, aux endroits des pharmacies, des supermarchés, là où les gens vont, pour qu'ils soient un petit peu au courant des services qui sont disponibles pour les aider, aussi peut-être des lignes téléphoniques d'aide psychologique pour les personnes qui vivent difficilement en confinement, d'aide aux personnes, je pensais aux violences conjugales, pour que ces gens puissent avoir une porte de sortie, quoi.
Alors aussi, tu disais que tu es observatrice à la prison de Lantin.
Je fais partie de la commission de surveillance. Avec cette commission de surveillance, ils ont un droit de visite au sein de la prison de Lantin pour vérifier les conditions de détention. Donc on va à la rencontre des détenus et on essaye d'aborder les problèmes quotidiens de la prison, de les relayer vers les institutions, de les régler quand ça peut être réglé.
Et donc ça, c'est ce que vous faites. Et alors, donc, les prisons belges, elles sont surpeuplées depuis un certain temps déjà. Est-ce que tu peux confirmer ça? Et qu'est-ce que tu penses? Une prison surpeuplée en temps de confinement, c'est quand même un peu un problème. Et donc, est-ce que tu as des échos? Est-ce que tu as pu observer ce que je te dis? Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui ont été faites? Puisque, en fait, le confinement s'avère être plus une punition que la résolution du conflit, parce qu'on leur a empêché d'avoir encore des visites ou de choses comme ça, quoi.
Oui, il y a une forte surpopulation à Lantin, notamment pour les détenus qui sont en détention préventive. Ils sont très majoritairement à 2 par cellule, ce qui rend évidemment une situation de confinement assez compliquée. Depuis la mesure de confinement, ils n'ont plus de visite. Ça rend la détention plus dure. Pour compenser un peu ça, les autorités ont accordé des crédits téléphoniques supplémentaires. Il faut savoir que maintenant, il y a des téléphones dans chaque cellule, donc des crédits pour qu'ils puissent appeler leurs proches, aussi pour qu'ils puissent faire état de leurs conditions de détention, puisque aussi depuis le début des mesures de confinement, les commissions de surveillance ne vont plus non plus en prison. Donc ces mesures, elles ont été prises aussi pour que nous, on ne contamine pas les détenus, Mais du coup, il n'y a plus de regard extérieur sur comment est-ce que ça se passe actuellement. Par rapport à ça, le Conseil central de surveillance des prisons, donc c'est une espèce de l'institution qui chapeaute les commissions de surveillance, a mis sur pied un numéro d'appel qui permet aux détenus de quand même pouvoir faire état de leurs conditions de détention à l'extérieur. Ils peuvent aussi écrire par courrier postal. Aussi, depuis le début du confinement, j'avais entendu que les durées de promenade avaient été allongées. Mais alors, le problème, c'est que les gardiens, comme tout le monde, sont en un certain nombre mis en quarantaine à partir du moment où ils ont des symptômes. Et du coup, le cadre d'agents diminue. Il y a de moins en moins d'agents qui sont disponibles dans les établissements pénitentiaires. Et s'il y a de moins en moins d'agents, ça met fortement en difficulté le fonctionnement de la prison. S'il y a moins d'agents, il y a moins de possibilités d'aller à la promenade. Pour les douches, c'est plus compliqué. Pour toutes sortes de mouvements, c'est plus compliqué. Et donc, on peut supposer que peut-être les détenus sont plus dans leurs cellules. Peut-être on peut dire que, ouais. Du coup, par rapport aux conditions de détention, il y a une carte blanche qui a été publiée hier, qui a été signée par de nombreux avocats, de nombreuses associations, par des professeurs d'université, aussi par des membres de commissions de surveillance, l'association syndicale des magistrats, etc., qui demandent notamment la libération de détenus qui seraient malades, qui seraient âgés, de certains détenus qui sont en détention préventive pour essayer de réduire la population carcérale et pour permettre une meilleure réorganisation des établissements pénitentiaires. Et voilà, c'est une des mesures qui est demandée par cette carte blanche qui a été publiée à l'initiative de Genepi.
Ok. Merci.
I come from California, dirty south from Belgium. Wah, wah, wah.
Mais par contre, j'ai pas peur des martiens. Parce que ce serait égoïste de penser que dans des galaxies énormes, il n'y a que nous qui ayons une vie à peu près normale.
Cher petit voisin, cher petit martien, si jamais tu descends sur Terre, sache qu'ici, il y a presque plus grand chose. Et c'est tout pourri. Enfin, il restait la fête, les concerts, les copains. Mais ça aussi, c'est fini. Alors si chez toi, c'est un poil mieux. Et qu'ils ont rien contre les genres, les races, les différences et toutes sortes de trucs. Eh ben, ne reste pas ici. Ou alors, rendez-vous devant chez moi. Oui, parce qu'en fait, pour le moment, j'ai pas le droit de quitter mon domicile. Surtout, je peux pas parler à un inconnu. Mais si t'es gentil, je veux bien parler avec toi. Enfin... c'est juste un proche ou quelqu'un de la famille, normalement, mais je peux faire des exceptions. Tu devras entièrement me couvrir de gel désinfectant et frotter très fort, très très fort. Malheureusement, je ne fais pas des vœux. Merci, petit martien. Et surtout, ne fais pas comme nous ici. Au revoir, petit martien.
Peut-être qu'ils sont comme nous, ils essayent de rentrer en contact désespérément pour avoir un mode, pour avoir des communications, des visites de chacun des mondes, des études, parce que ce serait un monde, c'est déjà enrichissant à étudier, mais deux, ce serait fantastique.
Alors, moi, j'ai envie de rebondir assez vite, parce que c'est vrai que là, c'est très riche, hein, il y a mille sujets sur lesquels on a envie de rebondir, mais il y en a un qui me tient à cœur, parce qu'à un moment, tu as parlé de possession, et puis tu as aussi évoqué la figure du zombie.
Ouais.
Et dans les discussions qu'on a eues avec Thierry Bardini hier notamment, justement, ouais. Lui, il a utilisé la figure du virus, comme il l'appelle, hein, c'est-à-dire qu'il le dépossède même de son... donc il l'appelle virus, c'est plus le virus, c'est virus. C'est, ça vient vraiment une figure, et il dit, voilà, c'est un objet, c'est une entité qui nous fait penser, déjà parce qu'elle abolit un certain nombre de frontières, hein, par exemple, entre le vivant et la mort, hein, on ne sait pas si c'est vivant, si c'est mort, ça fait débat. Ça abolit un certain nombre de frontières, un petit peu comme ce penser-sentir, hein, qui n'est plus une opposition, mais qui devient une sorte d'alliance. Et donc lui, il s'appuie comme ça sur le virus, comme ça, pour essayer de repenser ce que peut être le... Voilà. Donc il y a évidemment des extensions qui vont beaucoup plus loin. Mais ouais. c'est une figure zombie. Hein, il l'appelle comme ça, il dit, voilà, le virus, c'est un zombie. Et effectivement, alors c'est pas du tout le même écho, j'imagine, que la façon dont toi, tu peux penser la figure du virus comme un zombie, mais c'est aussi quelque chose que tu nous as évoqué, et notamment qui est présent dans un texte que tu as publié chez Lundi Matin, je crois, Désert en éveil, où tu évoques cette figure du virus zombie. Donc j'aimerais bien qu'on développe un petit peu là-dessus.
Bah écoute, très volontiers, mais en fait, cette figure n'est pas la mienne. C'est celle d'une anthropologue philosophe qui s'appelle Elisabeth Pouvinelli, qui a commencé à travailler dans les années 80, donc fin 80, début 90, elle est un petit peu plus jeune que moi, en Australie, avec des aborigènes dans le nord de l'Australie. Et elle continue d'ailleurs maintenant, je vous invite, je ne sais pas si on peut les voir en ligne, mais essayez de voir, peut-être qu'elle va les mettre en ligne maintenant. Elle fait des films avec un collectif qui s'appelle Carabing, et c'est tout à fait extraordinaire. Ils filment avec des téléphones, ils improvisent les scénarios au fur et à mesure. Et justement, c'est tout à fait, ils imaginent des univers qui sont à la croisée, donc, de l'espace-temps des rêves, tel que j'en ai parlé tout à l'heure, en Australie, et de la vie d'aujourd'hui, qui est celle des aborigènes confrontés à l'extractivisme, aux mines, à la destruction de leur territoire, et donc un imaginaire, y compris donc d'esprits et de zombies. Alors, elle a publié un livre en anglais qui s'appelle Géontologie au pluriel. Donc, il y a géo, hein, géo de géographie, ontologie de l'ontologie, donc du sentiment d'être, et au pluriel. Et donc, dans ce livre qui est assez ardu, hein, au niveau du langage théorique, donc, dont j'ai fait le commentaire dans mon texte « Le désert en éveil », moi, j'ai pris un peu, j'aime beaucoup Elisabeth, j'adore son travail, on rigole beaucoup ensemble quand on se voit, mais il y avait un point qui me dérangeait dans ce livre, et c'est de ça que je parle dans « Le désert en éveil ». Alors, elle est partie du principe, elle a pris trois figures. Le virus est une figure, les deux autres, l'animisme et le désert. Et les trois figures sont articulées ensemble, parce que l'animisme pour elle, qu'elle utilise pour totémisme en Australie, hein, elle n'oppose pas animisme et totémisme comme Descola dans ses quatre anthologies. Pour elle, l'animisme, c'est le simple fait que tout est vivant, pas juste les humains, les animaux, les plantes, mais aussi les pierres, c'est-à-dire, comme le disent les aborigènes, tout est animé. Hein, la terre n'est pas une matière inerte, mais la terre est vivante, les pierres sont vivantes. En ce sens-là, ça va même au-delà de Cohn, l'anthropologue qui parlait de la forêt comme vivante, mais qui n'acceptait pas que les pierres soient vivantes. Alors, pour moi aussi, les pierres sont vivantes, et d'ailleurs, je l'ai même vécu, expérimenté, grâce à Adrien qui vit sur le plateau de Mille Vaches, à Montagne Limousine. Il y a les rochers de Clamouza, où on est allé avec des étudiants du nouveau master d'études environnementales, et il nous a fait vivre des choses absolument extraordinaires sur ces rochers, des énergies que tout le monde a ressenties de manière différente. Et alors là, il faut bien dire que les énergies et la vie n'est pas toujours positif. Et c'est exactement ce qu'on expérimente avec les virus aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a, pour les peuples qui parlent d'esprits et de choses animées, qu'il y a d'un côté les bons esprits, de l'autre côté les mauvais esprits. Ce qui est très intéressant, ça on peut le voir dans les commentaires de certains anthropologues, mais ils se trompent souvent. Hein. C'est-à-dire quand on retourne travailler ensuite, d'autres anthropologues, moi par exemple, pour des aborigènes, on travaille avec ces peuples-là, le bon et le bien et le mal, c'est quelque chose de très chrétien. Bon, je rentrerai pas dans d'autres religions comme ça qui fonctionnent de manière hiérarchique avec des porteurs de savoir qui prennent le pouvoir sur les autres, hein, qui est la hiérarchie par exemple ecclésiastique du Vatican, etc. Mais dans les spiritualités où il n'y a pas cette prise de pouvoir sur les autres, où chacun de manière immanente expérimente quelque chose de la transcendance multiple, et bien il n'y a pas une opposition entre le bien et le mal, mais ça n'empêche pas que des choses peuvent nous faire mal comme elles peuvent nous faire du bien, les mêmes choses parfois, on le sait des batailles. Donc là, Pouvinelli parle de l'animisme pour parler de la vie généralisée qui traverse toutes les formes, y compris pour elle les machines. En ce sens-là, elle rejoint aussi ce que disait Deleuze et Guattari avec les philhommes machiniques, avec le désir machinique, etc. Bon, donc, il y a l'animisme, c'est la vie. Et elle oppose à l'animisme le désert comme la mort, parce qu'elle a une figure du désert qui est métaphorique. C'est-à-dire que le désert, quand on dit entre nous « Ah, c'est le désert », on pense qu'il n'y a plus de vie. Et donc, moi, j'étais partie dans mon texte pour dire « Eh bien, non, moi, mon expérience du désert avec les aborigènes, c'est qu'il est plein de vie. » Et que juste au moment où j'avais, enfin, c'était avant que j'avais écrit le texte, mais au moment où il a été publié dans Lundi Matin, j'avais donc rajouté un paragraphe parce que ça correspondait complètement au désert, soi-disant, des urbains, donc des fameux ronds-points qui venaient de reprendre vie grâce aux gilets jaunes. Voilà. Et pour moi, tout ça, c'est pas des métaphores. Hein, dans l'entretien que tu évoquais tout à l'heure, à un moment donné, je ne sais plus qui parle de métaphore.
Alors, hein, c'est Thierry Bardini qui dit justement que virus n'est pas une métaphore.
Il dit que ce n'est pas une métaphore, ouais. Voilà. Et c'est vachement important. Donc, la troisième figure, hein, donc je construis là le modèle de Polidelli. Il y a l'animisme, c'est la vie. Il y a le désert qui est la non-vie, notamment aussi à cause de l'extractivisme qui détruit, qui en allant chercher les minerais, détruit la vie de l'eau. Et la troisième figure, le virus, eh bien, est entre les deux. Je vais vous lire ce qu'elle dit, Pobinelli, pour définir le virus. Elle dit.
Prends le temps, il n'y a pas de.
Ouais. Voilà, le virus. Troisième figure de Pobinelli, Elisabeth. Serait, depuis l'attaque des tours de New York en septembre 2001, associé à l'islam fondamentaliste, mais aussi au mouvement vert radical. Alors, je fais une parenthèse, hein. Elle se situe du point de vue des gens qui accusent le mouvement vert radical d'être un danger terroriste. D'accord ? Selon Pobinelli, et là je la cite, le virus confond, c'est moi qui ai traduit, hein, le virus confond et met au même niveau la différence entre la vie et la non-vie. Donc c'est deux autres figures, hein, la vie, animisme, et la non-vie, désert. Tout en faisant attention à tirer un avantage des plus petits aspects de leur différenciation. Je saute là, j'ai pas l'original, parce que c'est juste mon texte tel que j'avais écrit, donc j'ai pas sous la main toute la citation en anglais. Le virus est la figure populaire du zombie. Okay, donc c'est elle qui le dit. La vie, devenue non-vie, est transformée, E-T, hein, pas E-S-T, en une nouvelle sorte de guerre d'espèces. L'inerte agressive versus la répétition de la vie. Et quand elle dit l'inerte agressif, encore une fois, elle renvoie à la figure du désert. Okay. Mais la terre comme étant matière inerte, c'est ce qu'on nous apprend encore à l'école. Hein. Enfin, nous, moi, on me l'a appris, mais les enfants aujourd'hui, dans leur, il y a de moins en moins de, comment on appelle ça, les cours de.
Sciences de la vie. Ouais,
avant on disait autre chose, mais j'ai oublié. Mais bref, aux sciences de la vie, on apprend à classer les choses en vivant, non vivant, vivant et inerte. Et la matière est inerte, la terre est inerte. Or, pour la plupart des peuples du monde, la matière n'est pas inerte. Voilà. Donc, le petit débat que j'ai eu avec Elisabeth, c'est à ce sujet. C'est-à-dire que j'ai du mal, moi, à accepter que l'homme, l'humain, ait le pouvoir de détruire la vie de la planète. Bien sûr, il est responsable d'énormément de destruction. Mais il y a quelque chose qui résiste dans la matière. Et ce serait très, enfin pour moi en tout cas, tout à fait inapproprié de supposer qu'on pourrait annoncer la fin du monde, quoi. La fin d'un certain monde, oui, bien sûr, et heureusement que d'une certaine façon, je trouve, on est confiné mentalement à accepter l'idée que l'on peut changer de monde. Voilà, moi c'est ce que je retire un peu de la situation actuelle. Maintenant, c'est à nous tous, ensemble, même si on ne sait pas qu'on est connecté, on partage à un niveau super inconscient la même mémoire de la Terre. On est, c'est ce que j'ai appris avec les aborigènes. On est plus sensible à la mémoire du lieu où on pose ses pieds là en ce moment. Mais c'est un immense réseau de connexion qui relie tout ça sur toute la Terre et même au-delà, hein, avec les étoiles et même au-delà de la Voie lactée, avec les nuages de Magellan.
Alors, moi j'ai envie de te poser une dernière question. En fait, si j'ai bien lu, si j'ai bien compris, hein, dans la pratique chamanique des rêves, donc dans cette pratique chamanique des rêves, parfois les mots peuvent venir en rêve quand on dort au bon endroit. Hein. Ça, c'est une citation de l'un de ces articles, hein, peut-être mal formulée.
Ouais.
Effectivement, c'est quelque chose aussi, je pense, tu en parles beaucoup avec Doucet, hein, sur les anthropologies de l'incertitude, qui permettent de faire émerger du collectif. Qui rend possible en fait ces collectifs, où l'incertitude n'est plus une impasse, et on va dire qu'il y a une sorte de changement de régime du collectif. Mais il y a un point, moi, que je trouverais intéressant d'aborder, parce que ça, je pense que c'est ce qui est en train de se passer, hein, que ce soit Notre-Dame-des-Landes ou sur cette radio, ou à différents endroits, à la ferme de la Chaux, etc. Hein, on essaie de tisser du collectif, hein, ça c'est un des... Et là-dessus, pas de problème. L'autre chose, c'est il y a... ces gens qui n'arrivent plus à entendre les mots, ou qui n'entendent pas les mots, hein, qui sont des personnes sourdes, qui sont désorientées. Et donc, il y a un mot, c'est le Warunka, hein, si je le prononce bien, je ne sais pas si je le prononce bien.
Warunka.
Voilà, et la question que j'aimerais poser, donc, qui peut relier à celle de faire du collectif, c'est comment ne pas devenir sourd, hein, comment ne pas se sentir perdu dans l'espace et le temps en ces temps de confinement.
Eh ben, écoute, peut-être que c'est juste un moment à passer, c'est-à-dire qu'il faut se perdre un peu pour se retrouver. Tu vois, si tu suis toujours le même chemin, tu as du mal à prendre un chemin de traverse. Là, on est en fait tous invités à changer de chemin, peut-être. Et pour revenir à ce concept Walpiri de Warunka, ils ont un seul mot pour dire les sourds au niveau des oreilles, la folie, et le fait d'être désorienté et de se perdre en brousse. Quand quelqu'un se perd en brousse, on dit il est Warunka, c'est-à-dire qu'il est sourd aux chants, hein, qui font le territoire. Il ne sait plus lire les pistes de chants. Il ne sait plus traquer, tu vois, lire les empreintes, les traces. Qui est la seule manière que l'on a de se retrouver là où on est. Par exemple, il faut trouver les traces de craquelures dans le sol pour savoir où il faut creuser pour trouver des ignames à manger, ou bien des petits marsupiaux ou des lézards que l'on mange aussi. Hein, donc pour survivre, pour manger, il faut pister, il faut tracer. Mais il faut aussi pister et tracer pour trouver son chemin. C'est en pistant que l'on sait... par exemple, en regardant des petits dans le désert, quand tu vois une toute petite pousse qui est là, d'un côté elle est plus brûlée que de l'autre, eh bien tu sais, par exemple si tu la regardes de nuit, eh bien tu sais que du côté où elle est brûlée, c'est là que se trouve le sud, parce que le soleil est le plus fort. Ensuite, tu vas regarder certains arbres et la manière dont ils sont pliés, tu vois, sous la force du vent. Eh bien, tu sais aussi d'où vient le vent. Et donc, est-ce que c'est le vent d'est? Est-ce que c'est le vent d'ouest? Et voilà. Et toutes les choses dans l'environnement sont à lire par des traces. Alors nous, on n'a pas forcément que des éléments naturels autour de nous, mais bien évidemment, puisqu'on a construit des villes et toutes sortes d'équipements, mais là aussi, elles sont pleines de traces. Et les aborigènes n'opposent pas à la nature et la culture. Eux, ils disent que la nature, c'est leur culture. C'est-à-dire que tout est marqué de traces, à la fois des humains qui sont passés par là depuis des siècles et des millénaires, hein, les aborigènes sont là depuis 60 000 ans sur le continent australien, mais aussi tout ce qui est vivant, et pas seulement les animaux et les plantes, mais aussi les dunes se déplacent, les vents, et puis les météorites qui viennent du ciel, etc. Lire les traces.
Ouais. Ce qui fait une petite boucle aussi avec ce que tu nous disais tout à l'heure sur la lecture des traces là et les nuages de Magellan.
Voilà.
Écoute, moi, j'aimerais bien conclure là sur ce mot parce que je trouve que c'est un mot assez magnifique. C'est aussi des choses. Enfin voilà, j'ai l'impression que on parle beaucoup de points de passage ou de se frayer des chemins là depuis quelques jours. J'ai l'impression que ça va un peu dans ce sens-là. Donc moi, je pense qu'on peut oui. on peut conclure sur ces mots.
Super, merci.
Super, bah merci à toi. Et puis.
Vraiment chouette.
Non, c'est génial. Je pense que voilà, merci infiniment.
Et on essaye de se retrouver en vrai.